Bonsoir à tous. Le temps de la remobilisation. Rassemblement national, le congrès du RN ce week-end à Perpignan s'interroge sur la défaite au régional sans changer de ligne, cap sur la présidentielle. Premier week-end de départ en vacances et la crainte d'un été sous Covid à cause du variant Delta. Dans les Landes, la vaccination est accélérée. Une fuite de gaz dans le golfe du Mexique provoque un incendie spectaculaire en plein océan. Delphine Evenoux dans un instant. Dans ce journal également, un juge du Vatican ordonne la tenue d'un procès pour un cardinal italien. Le Tour de France dans les Alpes est sous une météo très difficile. Victoire d'étape du Belge Teuns, Pogacar nouveau maillot jaune. Et nous irons à Lyon pour le festival Quai du Polar. Le temps pour demain, plus frais avec de la pluie et des orages. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
On va donc d'abord dans le golfe du Mexique, d'où nous proviennent des images terrifiantes d'un océan en feu, un cercle de feu provoqué par une fuite de gaz. Bonsoir Delphine Evenoux.
Bonsoir.
Un gazoduc sous-marin a cédé et un incendie s'est propagé à travers les vagues.
Oui, image littéralement incroyable, comme si on faisait bouillir de la lave dans l'océan. Alors, que sait-on de ce qu'il s'est passé? Peu de choses pour l'instant. Rupture d'un gazoduc sous-marin, selon les maigres explications fournies par Pemex, la compagnie qui gère ce complexe au large du Yucatan. Rupture provoquée par un orage électrique et de fortes pluies complète l'agence de presse Reuters qui a eu accès au rapport d'incident. Le gaz peut effectivement brûler dans l'eau. Y avait-il une autre matière à se consumer? On ne le sait pas. L'autorité mexicaine de réglementation de la sécurité pétrolière est elle aussi peu loquace. Elle promet qu'il n'y a pas eu de déversement. Sans en dire plus, pas de blessés non plus selon Pemex sur la plateforme offshore qui se trouve à 500 mètres de l'incendie. Pour en venir à bout, il a fallu faire appel à des navires spécialisés et 5 heures de travail avec notamment de l'azote déversé sur le feu. Pemex annonce une enquête pour connaître les causes de l'accident. L'entreprise publique n'est pas inconnue des défenseurs de l'environnement. C'est l'une des plus polluantes du monde et son nom est associé à l'explosion d'un oléoduc il y a un an et demi qui avait fait plus de 100 morts.
Mais effectivement, la compagnie pétrolière Pemex est au cœur de plusieurs scandales environnementaux. Plus d'informations sur Pemex ainsi que des images spectaculaires de cet incendie à retrouver sur franceinter.fr. Et puis dans l'Aude, depuis ce matin, 480 pompiers épaulés par 6 Canadair, 3 avions et un hélicoptère bombardier d'eau sont mobilisés pour lutter contre un incendie très important. Le feu qui a démarré dans le massif de la Clape près de Narbonne prend de l'ampleur. 250 hectares ont brûlé, 170 personnes ont été évacuées. Un week-end riche en rendez-vous politiques avec à Perpignan le congrès du Rassemblement National, une semaine après l'échec au régional. Ce congrès qui aurait dû être le lancement de la présidentielle pour le parti se déroule dans une ambiance morose avec des doutes sur la ligne du parti. Mais les militants croient au rebond sur place à Perpignan, Élodie Forêt.
Devant le parterre de militants, Laurent Jacobelli, ex-tête de liste dans le Grand Est, donne le là en début d'après-midi.
Alors chers amis, je ne sais pas si on va trouver aujourd'hui la recette miracle pour lutter contre l'abstention, mais je pense que c'est important qu'on partage vos expériences.
Pas de recette miracle et peu de remise en cause, ni de Marine Le Pen, ni de sa ligne. Sur scène, Jordan Bardella fustige ceux qui enterrent trop vite le RN et tentent de remobiliser ses troupes.
Je vous le dis avec force, avec conviction. Et avec la fougue de la jeunesse, rien n'est perdu. Rien ne sera perdu et il y a encore un chemin.
Dans la salle, un discours similaire. La présidentielle, ce sera différent, affirment les militants. Seuls de rares voix osent demander des changements, comme Jean-Pierre qui prône un retour aux fondamentaux.
Comme a dit Jean-Marie, il faudrait un peu plus de virilité. Elle va un peu trop à gauche, un peu plus, je sais pas, de sécurité sûrement, surtout l'immigration.
Mais pour les cadres, pas question de revenir en arrière au Front National et à ses tentations groupusculaires.
De son côté, Europe Écologie Les Verts tient plusieurs réunions ce week-end, mais en ordre dispersé. Rassemblement à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, demain. Des soutiens de Yannick Jadot à la primaire des Verts. Et ce soir, c'est le camp d'Éric Piolle, également candidat à la primaire des écologistes, qui se réunit, mais à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Premier week-end de départ en vacances et premier bouchon sur les routes, 554 km à la mi-journée. Les vacances sont donc bien débutées avec les traditionnels bouchons au ralentissement, notamment sur sur l'autoroute A7 dans la Drôme et l'A10 en Nouvelle-Aquitaine. Mais avec, cette année, la crainte de passer nos vacances d'été sous Covid avec le variant Delta. Et pour sauver l'été, le gouvernement le répète, il faut poursuivre et amplifier la vaccination. Et il sera désormais plus simple de recevoir les deux doses de vaccin. Il ne sera plus nécessaire de recevoir les deux injections dans le même centre de vaccination. Première et seconde dose pourront se faire dans des lieux différents. Et les Landes font partie des départements où ce variant Delta est le plus présent. Et dans les Landes, justement, la vaccination sera facilitée. Sylvie Quellet, directrice déléguée de la santé publique à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Il est tout à fait possible maintenant de prendre un rendez-vous dans un lieu pour une première dose et un rendez-vous dans un autre lieu pour une deuxième dose. Et les plateformes de rendez-vous sont désormais paramétrées pour permettre cela. L'espace entre deux doses, effectivement, a été considérablement élargi entre 21 jours et 49 jours, ce qui permet de trouver un rendez-vous qui convienne à tout le monde. On est loin de l'immunité collective, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour faciliter la vaccination et rapprocher la vaccination de chacun des Français pour que, en fait, on crée des opportunités pour qu'on puisse se faire vacciner sur son lieu de travail, sur son lieu de vacances. Quand on va faire ses courses au supermarché, donc toutes ces situations ont été traitées différemment pour pouvoir se faire vacciner de manière très facile. On a l'impression qu'il y a un ressaut. Vous savez, on a eu cette période, comme tous les autres départements, où on avait moins de demandes. Et là, visiblement, on a beaucoup plus de demandes pour des premières doses. Donc, cette sensibilisation semble porter ses fruits.
Sylvie Quellet avec Virginie Lebrun. Un premier week-end de vacances d'été marqué sur la Côte d'Azur par une violente bagarre à la fin d'une grande fête sur une plage de Golfe Juan dans les Alpes-Maritimes. La soirée a dégénéré, faisant un mort et plusieurs blessés graves dans une bagarre au couteau. Luc Chemla, France Bleu Azur.
On n'a pas de piste, on ne sait pas vers où chercher, reconnaît la procureure de la République de Grasse. La principale difficulté pour l'instant, c'est que les participants à la fête ne parlent pas. Alors Fabien Azzouri s'interroge. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Si oui, pourquoi se taire? Connaissent-ils la victime? Beaucoup de questions parmi tant d'autres. Quelle est la raison de cette rixe? Parmi les blessés, y a-t-il l'auteur des coups de couteau? Selon la procureure, l'agression a eu lieu en pleine rue, à proximité de la plage. Concernant la victime, c'est un homme de 37 ans, né au Portugal. La police, de son côté, annonce que la fête rassemblés en majorité des Capverdiens.
Luc Chemla de France Bleu Azur. Un procès et une première au Vatican dans le grand ménage des finances de la Curie romaine entrepris par le pape François. Un juge du Vatican vient de mettre en examen 10 personnes, dont un cardinal italien. Tous seront donc jugés afin de faire la lumière sur de possibles crimes financiers et notamment l'achat ruineux d'un immeuble de standing à Londres. Le cardinal Angelo Becciu, l'un des cardinaux les plus influents du Vatican, va donc comparaître devant le tribunal du Saint Siège. Sur place à Rome, Olivier Tosseri.
L'affaire de Londres secoue le Vatican. Cette série de placements financiers hasardeux dans l'immobilier de la capitale britannique éclabousse certaines des plus hautes personnalités de l'Église catholique. Parmi elles, Angelo Becciu. C'est la première fois qu'un cardinal comparaîtra devant la justice vaticane. Cet ancien diplomate, très proche du pape, occupait jusqu'en septembre dernier le poste de préfet de la Congrégation pour la cause des saints, l'un des rôles les plus importants au sein de la Curie romaine. Mais la découverte en 2019 d'un investissement de 150 à 200 millions d'euros dans un luxueux immeuble londonien le pousse à démissionner. La presse italienne révèle en outre un enrichissement familial de près de 600 000 euros de la part du cardinal Becciu, qui admet avoir bien versé des fonds du Saint-Siège à ses frères, mais pas de façon illégale. La justice vaticane assure disposer d'éléments à son encontre nécessitant l'ouverture d'un procès pour détournement de fonds et abus de pouvoir. « Je suis victime d'une machination et d'un acharnement médiatique », commente le cardinal Becciu, qui assure qu'il souffre en silence. Silence partagé par le pape François, qui n'a pour l'instant prononcé aucune parole pour soutenir l'un de ses anciens collaborateurs les plus intimes. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Le Tour de France avec la victoire lors de la 8e étape au Grand Bornand du Belge Dylan Teuns. Tadej Pogacar est le nouveau maillot jaune. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Frédéric.
Pogacar, 4e de l'étape, a mis son empreinte sur le Tour. Il a assommé la concurrence dans des conditions météo particulièrement difficile aujourd'hui.
Oui, Tadej Pogacar, maillot jaune, et on ne voit plus vraiment qui pourrait le priver d'un doublé. Tenne une mobilette lancée dans le col de la Colombière, laissant sur place, puis très loin dans son rétro, un à un, tous ses adversaires. Mais le Slovène l'affirme, rien n'était prémédité.
Ce matin, je n'avais pas prévu ça, je voulais voir comment ça allait se passer. Et à la fin, je me suis senti bien avec cette météo. Alors j'ai décidé d'attaquer avant la dernière ascension. J'ai dit à mes coéquipiers, allez, on essaye de renverser la course. Et on l'a fait.
Et oui, au final, ça fait mal. La concurrence est sonnée. Richard Carapaz et Jonas Vingegaard pointent déjà à 5 minutes au classement général. Le tout, vous l'avez dit Frédéric, dans des conditions météo exécrables. Vous l'entendez ?
On entend bien la pluie, oui.
Il pleut. Certains coureurs ont fini transit froid à l'image de Guillaume Martin. Beau huitième de l'étape, mais complètement rincé.
Ouais, ça n'a pas débranché, comme on dit, du début à la fin. Dantesque, je pense que c'est le bon mot. Ouais. Ouais, vraiment une course folle, un peu à l'image du tour depuis le départ. Donc j'étais un peu vide à la fin. Ouais.
Au général, le premier Français, c'est David Gaudu. Le grimpeur de la Groupama FDJ est 9e à 5 minutes 52 de Pogacar ce soir. Il peut encore, Frédéric, rêver de podium.
Et puis, l'un des favoris, Fanny, a perdu tout espoir aujourd'hui, c'est Primoz Roglic.
Avec cette image qui reste rare, Roglic, deuxième l'an dernier, qui coupe la ligne d'arrivée juste avant la voiture balai, avec à ses côtés Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018 à plus de 35 minutes. Ils n'ont bien sûr plus aucun espoir de gagner, mais ils ont fini l'étape avec Roglic, qui la ligne franchie, est allé voir avec le sourire, comme toujours, les spectateurs pour distribuer bidon et sourire. Chapeau quand même à ce champion.
Fanny Lechevestrier avec Lucien Lefebvre. Merci. Un mot de l'Euro de football avec les deux derniers quarts de finale aujourd'hui. À la mi-temps, le Danemark mène 2-0 face à la République tchèque. Et puis ce soir, dernier quart de finale entre l'Ukraine et l'Angleterre. Le festival Quai du Polar de retour à Lyon après une édition 2020 virtuelle pour cause de coronavirus. Les écrivains peuvent donc échanger avec leur public passionné de romans policiers. Et pour cette 17e édition du festival, on a parlé du polar après le hashtag MeToo, discussion entre l'un des grands du roman noir, Hervé Lecor, et le prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, et la rencontre a fait sale comble, Ilana Mor-Youssef.
Dans le dernier roman de Nicolas Mathieu, Rose Royale, l'héroïne n'est pas exactement une féministe de la génération MeToo. Ce qui intéressait le prix Goncourt 2018, c'est...
Une femme qui a beaucoup aimé les hommes et qui les a beaucoup subis, qu'est-ce qui se passe le jour où elle dit assez ? Et alors, comme c'est de la littérature de genre, pour bien marquer le coup, on lui donne un revolver.
À côté de lui, Hervé Lecor, dont le dernier roman, Traverser la nuit, raconte l'histoire de Louise, harcelée et battue par son ex. Mais dire « je » pour un personnage féminin, Hervé Lecor ne se l'autorise pas.
Peut-être que c'est plus une incapacité qu'un interdit. J'ai essayé. À un moment donné, j'ai l'impression de devenir un usurpateur.
Cela n'empêche pas d'écrire à propos des femmes. Après tout, elles sont leurs amies, leurs mères, leurs sœurs, leurs amoureuses. Et c'est avec un intérêt passionné qu'ils observent le mouvement MeToo.
On lira peut-être moins d'âneries, et je suis poli, au sujet des personnages féminins dans les romans, que ce qu'on a pu lire ces 20 dernières années peut-être.
Oui, oui, bien sûr que ça m'affecte et que ça doit changer quelque chose. Après, il ne s'agirait pas d'être à la remorque de l'époque ou de vouloir tirer les marrons du feu parce que là, il y a un marché ou des choses comme ça. Mais oui, oui, je pense que ça change quelque chose.
Comme souvent pour ce genre de questions, le polar est aux avant-postes.
Le festival Quai du Polar ce week-end à Lyon. La météo dans un instant.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Belinsky.
Après une relative accalmie cet après-midi par les régions de l'ouest, mais le maintien d'un temps orageux à l'est, les conditions vont à nouveau rapidement se dégrader en cours de nuit, à la fois par la Bretagne avec l'arrivée d'averses et d'un temps déjà orageux en fin de nuit dans le quart sud-ouest. Avec pour la matinée sur la moitié nord du pays, un ciel incertain ponctué d'averses et de coups de tonnerre. Et pour la moitié sud, des averses orageuses circulant rapidement vers le Massif central, les Alpes et la région PACA. C'est en fait encore une fois sur la Corse que le soleil sera le plus durable. En seconde partie d'après-midi, une accalmie va s'installer par l'océan, mais elle sera de courte durée, avec le retour d'une nouvelle vague de pluie en fin de journée par la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, avec l'après-midi des températures pratiquement partout en baisse, sauf sur le bassin méditerranéen.
Jean-Michel Golinski de Météo France.